On ne parle plus beaucoup du jugement dernier, puisque cette parabole qui nous est donnée, de ce roi qui reçoit les uns et les autres, eh bien évidemment c'est l'image de Dieu lui-même, mais c'est l'image aussi du jugement dernier. On ne parle plus du jugement dernier comme si c'était moins, entre guillemets, moins vendeur, moins audible. Nous irons tous au paradis, comme dit la chanson. Puis au fond, un jugement dernier, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, met une forme de négativité? Juger quelqu'un, ben c'est plutôt négatif. Non, tu ne jugeras pas, même on dit dans la Bible, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Et du coup, je me dis, au fond, mais est-ce que notre dignité n'est pas dans le fait qu'il y ait un jugement dernier? Parce qu'on juge, au fond, des personnes qui sont responsables. Même dans la société civile, quelqu'un qui est déclaré irresponsable de par sa psychiatrie ou son déséquilibre ou son handicap mental, que sais-je, eh bien, il n'est pas jugé digne de recevoir un procès. On le met soit à l'hôpital, on lui donne un traitement, mais on juge des personnes que l'on estime responsables. Et je me dis, en même temps, quelque part, le jugement dernier, c'est l'affirmation de notre grande dignité. Et ça donne à notre vie humaine une densité qui est extraordinaire. Ce que je fais ici-bas retentit dans l'éternité. Est-ce que nous y pensons seulement un instant, que déjà nous préparons l'éternité ici-bas, par nos actes? Et on le voit bien quand Jésus prend les exemples de secourir la personne qui, d'une manière ou d'une autre, est dans un état de fragilité, que ce soit à la faim, à la soif, à les nues étrangères, les malades en prison. Eh bien, ce que l'on fait à ces personnes-là, eh bien, d'une manière ou d'une autre, nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est assez original comme manière de juger, parce qu'on aurait pu s'attendre à d'autres formes de manière de juger. Voilà, si vous avez beaucoup prié, si vous avez beaucoup fait l'aumône, si vous avez beaucoup jeûné. Mais le Seigneur, dans Matthieu 25, qui est vraiment un évangile à méditer, nous rappelle que les actes d'amour désintéressés que nous faisons dans cette terre, sur cette terre, eh bien nous les emporterons avec nous. Je veux dire, il n'y a que ça que nous emporterons avec nous, les actes d'amour désintéressés. Il y a en espagnol un dicton qui est très beau, qui dit « La mortaja no tiene bolsillo ». Le linceul n'a pas de poche. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, eh bien, je laisserai tous les biens matériels que j'ai ici. Eh bien, ces biens-là, je ne les emporterai pas. Mais je n'emporterai pas non plus tout ce qui n'a pas été amour dans ma vie. J'emporte ces actes d'amour désintéressés et la personne qui est en état de fragilité, elle me donne cette occasion de me dépasser, de sortir de moi-même pour pouvoir être à l'écoute. Vous me direz, mais il n'y a pas besoin d'être croyant et encore moins catholique pour faire ça, pour faire des œuvres de bien. Et heureusement, d'une manière ou d'une autre, dans nos sociétés, les œuvres de bien, eh bien, sont plutôt encouragées. Il y a beaucoup d'associations, d'ONG, d'associations humanitaires qui n'ont pas du tout de fondement religieux. Mais en quoi, nous, c'est différent? Prenons premièrement conscience que s'il y a des associations humanitaires qui n'ont pas de fondement religieux, c'est que quelque part, au début, il y a eu une évangélisation. Et que l'espérance chrétienne a façonné notre continent et a façonné un certain nombre de pays. Et même si aujourd'hui ces personnes ne sont pas religieuses ou pratiquantes, ben voilà, ça a quelque part rendu possible par rapport à ce qui existait avant. Parce que si tu étais nu, tu avais faim, tu étais étranger, malade ou en prison, avant que le Christ n'arrive, est-ce toi qui as péché? Ou est-ce que ce sont tes parents qui ont péché? Comme pose la question, comme Pierre pose la question à Jésus face au miracle de l'aveugle-né. C'est au fond que quelqu'un, tu as fait quelque chose de mal, si tu te trouves dans cette situation-là, forcément tu as fait quelque chose de mal. Alors en prison, on peut comprendre en général qu'on ait fait quelque chose de mal, ça c'est sûr. Mais bon, avoir faim, c'est... Et là, cette identification du Seigneur avec la personne pauvre, la personne qui est en situation de souffrance, qui d'une manière ou d'une autre est dans une grande vulnérabilité, cette identification se trouve est très forte. Si d'autres font le bien, alors qu'ils ne sont pas mus par la foi, et il est heureux qu'ils fassent ce bien, nous, comme chrétiens, quand nous nous approchons d'une personne en fragilité, nous avons cette conscience que c'est non seulement d'une personne humaine que nous nous approchons, mais c'est du Seigneur lui-même que nous nous approchons. C'est à moi que vous l'avez fait. Cette identification avec le pauvre qui fait que des Vincent de Paul, des Mères Teresa se sont levés dans l'Église, et bien avant eux, un Saint Laurent, par exemple, diacre, qui, quand l'empereur lui demandait, parce qu'il avait, il était trésorier de l'Église naissante, quand l'empereur lui demandait de sacrifier, de donner les trésors de l'Église à l'Empire, il arrive avec les boiteux, les aveugles, les estropiés, et il se tourne vers l'empereur, « Voilà le trésor de l'Église. » Voilà le trésor de l'Église. C'est dans la culture chrétienne depuis le début, entre autres avec cet évangile, que l'identification du pauvre et du Seigneur a fait surgir dans son Église des hommes et des femmes qui se sont levés pour dénoncer l'injustice. Des hommes et des femmes qui se sont indignés. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce que Matthieu 25 n'est pas en danger ? Qui va sauver le soldat Matthieu 25 ? Dans quel sens ? Non pas que des personnes ne continuent pas à faire le bien, mais en tout cas dans notre France, on voit bien des replis, des peurs. Prenons un exemple. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Ça n'a jamais été simple d'accueillir l'étranger. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, nous, dans cette dimension d'accueil de l'étranger, sans être angélique? Mais le pape François, de ce point de vue-là, pour lui, c'est un évangile, on sent, qui est central dans son pontificat. Et il puise dans le trésor de l'Église, dans la très grande tradition de l'Église. Et donc, pour nous, je pense que c'est important de se poser la question, et vous, chers jeunes, où en sommes-nous de notre implication au service des autres ? Parce qu'il en va aussi de, non seulement de notre salut, quelque part, de l'ouverture, justement, de toucher quelque chose de la vie éternelle. Mais où est-ce qu'on en est de notre implication au service des plus pauvres ? Posons-nous la question, est-ce que l'on est de... Parce qu'il en va aussi de notre fécondité, de la fécondité de notre vie. Une vie est féconde et porte du fruit dans la mesure où elle rentre dans une logique de don, dans une forme de désappropriation, dans une logique d'accueil et de compassion. C'est là où notre vie porte du fruit. Et c'est vrai que ne prétextons pas le manque de temps ou le manque de moyens pour ne pas nous-mêmes nous poser la question où est-ce qu'on en est de cette mise en application de Matthieu 25. C'est tellement central que Jésus lui-même l'a choisi comme pour définir l'entrée dans le royaume. C'est quand même pas rien. Notre destinée éternelle. Alors, Je trouve que, et ça, ça a été depuis le début porté par les chrétiens, ne l'oublions pas, à tout seigneur, tout honneur. Que d'autres le portent, on s'en réjouisse, mais nous le portons parce que c'est à lui que nous le faisons, à la personne concernée. Mais c'est à moi, c'est cet amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre l'Eucharistie et l'amour des plus pauvres. Parce qu'il y a, comme dit... Jésus a pris la dernière place et personne ne pourra la lui ôter. Personne ne pourra la lui ôter. Et dans l'Eucharistie, hein, c'est Charles de Foucault qui disait ça, dans l'Eucharistie, Jésus a pris la dernière place et personne ne pourra la lui ôter. Et donc on voit un aller-retour entre cet amour des plus pauvres et cet amour de l'Eucharistie. Il y a comme un lien spirituel très fort, un lien de... Voilà, comme une sœur posait la question à Saint-Vincent de Paul, « Mon père, mais si je dois quitter la chapelle pour aller ouvrir à un pauvre qui sonne, qu'est-ce que je dois faire ?» Et la réponse des saints, c'est toujours des réponses extraordinaires. « Eh bien, vous quittez Dieu pour Dieu. » Nous avons encore, dans notre chère France, à donner ce témoignage, cet engagement. Nous avons aussi à nous indigner quand nous voyons l'injustice, à réagir et non pas dire, ben non, qu'un autre s'en occupe, je passe comme le lévite et le prêtre à côté de l'homme blessé, à côté du chemin, alors que le samaritain lui s'arrête. Alors on va demander au Seigneur, à la Très Sainte Vierge, de nous aider nous-mêmes à prendre peut-être plus conscience de cette logique justement de don et de don gratuit que nous permet la personne en fragilité. Quand vous invitez, comme dit Jésus, n'invitez pas ceux qui peuvent vous retourner l'appareil, mais allez par les chemins, invitez les boiteux, les aveugles, les estropiés, invitez celui qui ne pourra jamais vous rendre. Alors vous serez heureux. Heureux de cette béatitude qui est au ciel.